Tout d'abord, un hommage au pape François, qui, comme Jésus, mérite de laisser une trace éternelle dans la mémoire du monde entier, chrétien ou non chrétien. Ce jésuite argentin, fils aîné d'immigrés italiens, disciple de saint François de Sales, de son nom, a su être un pasteur de terrain à l'écoute.
François d'Assise.
Excusez-moi. D'accord. En tout cas, elle a su être un pasteur de terrain, à l'écoute de tous, défenseur des pauvres, des périphéries et des migrants, pacifiste et également des mineurs du monde, mais aussi militant, servant de l'écologie intégrale. Il a donné à sa foi un contenu discret, concret et progressiste au service de l'amélioration du monde d'en bas, sans s'arrêter à une conception figée de la croyance. Il laisse un chemin d'espérance que prendra sans doute son successeur Léon XIV, à qui nous souhaitons la bienvenue à l'occasion de cette année jubilaire, dans un monde violent qui semble avoir perdu ses repères. Cherchant un titre pour illustrer mon propre cheminement de pensée au sujet de l'image de Dieu, j'ai choisi la traduction française qu'on donne au mot « Amen », à savoir « Ainsi soit-il ». Cette expression est le titre d'une chanson de Louis Chédid qui, dans son clip, présente le tournage d'un film fait d'images de sa vie en mouvement, et quand il prononce « Ainsi soit-il », on a l'impression qu'il fait un arrêt sur image. Amen signifie plus précisément je fais confiance à ce que je reçois aujourd'hui, ce qui ne signifie pas qu'on ne peut pas faire mieux. Si ce n'était pas le cas, les deuxièmes tables de la loi n'auraient peut-être pas été écrites, le christianisme n'aurait peut-être pas vu le jour, la Révolution française n'aurait pas eu lieu. Nous verrons au travers du symbole de la matza et de l'œuf de Pâques, comment on peut faire évoluer le « ainsi soit-il » en « ainsi sera-t-il » toujours perfectible. Il y a de nombreux mots hébraïques pour traduire le mot « image » ou « statue », notamment le mot « temuna » pour « image » et « pesel » pour « statue ». Idole sculptée. Mais on peut être d'emblée surpris par le fait que Dieu nous demande de ne pas créer des images ni des statues et dit pourtant avoir créé l'homme à son image, Salmé nous dit, et selon sa ressemblance, Demut. Il est vrai que les mots utilisés en hébreu sont un petit peu différents. Il y a aussi le mot Tavnit, qui vient du verbe « livnot », qui veut dire « construire ». Et ça désigne quelque chose de construit artificiellement par l'homme. Et il y a aussi le mot « matseva », qui signifie « monument », qui pourrait s'imposer ainsi par son volume et par son poids à celui qui le regarde. On peut être surpris qu'alors que Dieu, un peu plus loin sans nous l'interdire, Jacob ait érigé un monument à partir de la pierre sur laquelle il a dormi lors de son rêve de l'échelle. Puis un autre, d'ailleurs le même Jacob a construit un monument sur la tombe de sa femme Rachel pour honorer la mémoire de son épouse. Plus tard, Josué érigea sur les ordres de Dieu 12 pierres symbolisant les tribus d'Israël, là où les eaux du Jourdain se sont séparées devant l'arche d'alliance du Seigneur. Tous ces mots démontrent, malgré certains paradoxes, la nécessité de ne pas s'arrêter à une image figée de Dieu ou de la représentation qu'on peut s'en faire, et d'appliquer dans notre vie, sur terre, une vision dynamique des textes sacrés. Mais revenons à la Témouna et à la Émouna. Je rappellerai tout d'abord que lorsqu'on dit Amen, on exprime sa foi en Dieu, sa confiance dans le texte de la Torah, auquel on croit et on adhère sans discuter. C'est pour cette raison que ce terme a été traduit à juste titre par « Ainsi soit-il ». Dans le deuxième commandement, que ce soit dans la première version de l'Exode ou dans le Deutéronome, dans le deuxième, Dieu nous recommande de ne pas faire d'image, et pour cela il utilise le terme « Témouna » qui dérive de « Émouna » et donc de « Amen ». Faut-il comprendre cette parole au premier degré, ou plutôt comme une interdiction de dire « Amen » ou « Ainsi soit-il », c'est-à-dire de faire des arrêts sur image? Autrement dit, sa loi est-elle définitivement figée ou est-elle une référence pouvant faire l'objet de commentaires ou d'interprétations? Il faut rappeler que la Torah dit « Tout ce que je vous prescris, observez-le exactement sans rien y ajouter, sans rien y retrancher » dans le Deutéronome 13.1. Pour autant, il n'est pas interdit d'enrichir le débat largement entamé dans le Talmud et de nombreux commentaires de grands rabbins par nos propres réflexions et débats qui font de la Torah quelque chose de vivant. Et ces statuts ne doivent pas être des... statuts ES et doivent faire travailler notre imagination. C'est la base de la jurisprudence et la raison des avocats et des juges qui doivent appliquer la loi avec intelligence. Donc l'intégrisme et le radicalisme ne sont pas morts. La rigueur est certes utile pour maintenir l'intégrité d'une communauté et est incontournable dans le cheminement spirituel de l'enfant puis de l'homme. Le grand rabbin Gage, dans une de ses conférences, soulignait la perversité de la notion de pureté en matière religieuse, où l'idéal se substitue au désir. La loi se substitue à la vie. Et il a dit « Choisis la vie et non choisis la loi ». La loi nous permet simplement de mettre de la raison à notre instinct, de l'immanence, c'est-à-dire de l'amour de l'autre, à la transcendance, c'est-à-dire l'amour de Dieu, et surtout de la modération dans l'application de la loi elle-même. Alors, l'interdiction du deuxième commandement de faire une image, témouna, ou une sculpture, pessel, n'est pas limitée à l'image de Dieu, mais de tout ce qui est dans le ciel en haut, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux en dessous de la terre. Ce qui signifie qu'il ne faut pas imposer à son prochain une idéologie, faite de nouveaux règlements, figés comme des statues en fonte, on appelle ça des matseva maserar, des constructions de l'esprit humain, des livnot, des tavnit, en opposition à ses intérêts et aux commandements divins. On ne doit pas non plus rogner, donner un coup de canif, un coup de gouge ou de scalpel pour sculpter, d'où le nom Pessel, des valeurs républicaines telles que l'amour et la justice vis-à-vis de son prochain, de l'étranger, que ce coup de canif vienne d'en haut, c'est-à-dire le patron, les instances supérieures, les parents, en haut dans le ciel, ou d'en face, les collègues de travail, les conjoints, ou en bas sur la terre, ou d'en bas, c'est-à-dire la rue, les enfants, les employés, dans les eaux plus bas que la terre. Hein, c'est tous ces trois niveaux qu'il faut faire attention à être vigilant. Pour illustrer ce troisième thème, je citerai une phrase très actuelle de Platon. Lorsque les parents s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant les élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne voient plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne, alors, en toute jeunesse et en toute beauté, c'est le début de la tyrannie. C'est Platon qui disait ça déjà à l'époque. On ne peut pas dire que ce n'est pas actuel. Face à ce putsch familial, de nombreux parents baissent les armes, l'autorité parentale est rompue, et la communication aussi. Le plus triste, c'est que si un maître essaye de prendre les choses en main, eh bien les parents vont parfois s'opposer à ce dernier. Certes, ce comportement peut être en rapport avec une pathologie propre à l'enfant, type TADH ou trouble oppositionnel, et qui peut relever d'un traitement médical. Mais il est important de savoir, dès les premiers années de la vie, donner des limites à cet enfant afin qu'il ne se prenne pas pour Dieu le Père. Nous pouvons donner comme autre exemple, alors je ne sais pas si je suis bien. Donc on pourrait donner comme autre exemple le fait d'accepter sans broncher que des injustices soient faites à notre prochain au nom d'une ségrégation raciale. Par exemple, sous le prétexte qu'elles ont été instituées le siècle dernier et qu'elles se trouvent entérinées de génération en génération parce qu'elles sont devenues une coutume locale. C'est seulement dans ces cas que la faute des parents est reportée sur les enfants de la troisième et la quatrième génération. Parmi les idéologies, sans eux, la laïcité peut en devenir une dès lors qu'on refuse, par exemple, voire qu'on interdit de servir des plats alternatifs dans les écoles pour les enfants juifs ou musulmans au nom de la laïcité. Je vais peut-être sauter du coq à l'âne, c'est le cas de le dire, en parlant du radical PES, qui est contenu dans le mot PESEL, idole sculptée, et qu'on retrouve aussi dans le mot PESAR, notre Pâque juive, où la mort des premiers-nés a sauté au-dessus des maisons juives, où il y a eu zéro décès, on dit Ephes, Met, on retrouve ce Fès dans le Pès, hein, c'est la même racine. Ce taux décrit un mouvement fait de creux et de bosses qu'on retrouve dans la structure du céleri, qu'on dit en hébreu « carpas », hein, où il y a encore ce radical « pes », qui contient donc ce radical. Ce légume fait partie du plateau de céder de la fête et nous donne l'impression que ce légume a reçu des coups de gouge et a été sculpté, c'est-à-dire on retrouve ce mot « pesel ». Je vois également, souvent à ma consultation, des patients qui sautillent sur leur béquille en boitant. On dit en hébreu « pisear », qui est la même racine que « pesar », à la suite d'une entorse de cheville. On dit en hébreu « efsaïm », on trouve toujours « fs hein, »,« ps » ou « fs », c'est pareil, et qui contient donc ce radical « ps » également. Et quand je leur fais une échographie pour voir si les ligaments sont rompus, je suis obligé de mettre beaucoup de gel car cette articulation est pleine de creux et de bosses, on appelle les malléoles, comme si elle avait été sculptée par le Créateur. À noter également que Dieu avait donné les premières tables de la loi, mais il a par la suite demandé à Moïse de tailler deux nouvelles tables pour réécrire les 10 paroles, et il utilise pour cela aussi la racine pesel en disant psal lecha shenei luchot avanim kevarishona, c'est-à-dire taille-toi des tables de pierre comme les premières. Qui a dit que c'est interdit, c'est lui-même qui les demande. De cette racine découle le terme pasoul, qui veut dire quelque chose impropre à la consommation sur le plan religieux, défectueux, mauvais. Ou ça peut être aussi un être disqualifié, qui est rejeté. Dans le traité Kiddushin du Talmud, il est dit « Kol aposel, bemumo posel », c'est-à-dire « qui mal veut, mal lui vient ». On pourrait dire aussi « qui disqualifie, est disqualifié ». En conclusion, sur cette première partie, je me permets de vous poser une colle. Faut-il détruire la statue de la liberté à New York, qu'on appelle en Israël Pesel Acherut? En effet, il est dit dans la Torah, non, voici ce que vous devrez leur faire. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs monuments, vous abattrez leurs bosquets et vous livrez leurs statues aux flammes. Deutéronome 7:5. Vous faites ce que vous voulez, hein, mais personnellement, je ne m'attaquerai pas à elle, car elle symbolise les valeurs républicaines, et donc les valeurs de la Torah pour lesquelles il faut se battre. Par contre, Moïse, lui-même, a brisé les premières tables de la loi, sans doute inadaptées à ceux qui n'avaient pas la Emouna, en l'existence de Dieu. Puisque, finalement, la raison qui fait qu'on fait le Shabbat, c'est « Tu observeras le Shabbat, car l'Éternel s'est reposé le septième jour. » Il a dû les réécrire en justifiant le Shabbat pour des raisons sociales. Il a dit, donc ça c'est la deuxième fois, « Car ton esclave et ta servante ont droit au repos comme toi. » Le christianisme s'est affranchi de l'Ancien Testament pour écrire le Nouveau Testament qui est plus accessible aux non-croyants. La fête de Pâques rappelle la mort de Jésus, Agnus Dei, et sa résurrection. Ce n'est pas sans rappeler notre mort en tant qu'agneau soumis, statique et sage comme une image, et notre propre résurrection en tant qu'homme libre, mobile et rebelle, sorti de l'esclavage d'Égypte, comme nous le rappelons lors de la lecture de la Haggadah, lors de la fête de Pessah. On entrevoit le lien intime qui existe entre les deux fêtes, chrétienne et juive. L'analogie entre les deux fêtes se poursuit au niveau de la scène. Il est utile de rappeler que Jésus et les apôtres, en tant que juifs, célébraient la fête de Pessah, comme il se doit, et mangeaient donc de la matzah, qui est devenue par la suite l'hostie, faite également de pain azime. Une des symboliques de la matzah, qui se différencie du pain par le fait que les Hébreux n'ont pas pris le temps de laisser monter la pâte, était l'urgence de prendre la voie de la liberté. Afin de mieux comprendre ce concept, je vous ferai part d'une expérience personnelle concernant mon exercice médical. Quand je me suis installé dans les années 80, j'avais le choix d'être conventionné à honoraires imposés par la Sécurité sociale ou à honoraires libres. Comme j'étais jeune médecin, j'ai pris la première option, je me suis dit « je vais attendre l'année prochaine pour passer en honoraire libre ». Entre-temps, la réforme Juppé est passée et je n'ai jamais pu repasser en secteur 2. Prenant mon courage à deux mains, j'ai fini par passer en secteur 3, c'est-à-dire totalement déconventionné, sans remboursement aucun de mes honoraires par la Sécurité sociale. Et j'ai pris cette décision il y a 2 ans à l'occasion des fêtes de Pessah. Tout ceci ne serait pas arrivé si j'avais pris immédiatement et sans réfléchir la voie de la liberté. Une autre symbolique classique de la matza est que le vin symbolise l'orgueil et l'égocentrique. Hametz et matza se différencient seulement par une seule lettre, hey pour la matza et ret pour hametz. Tous les deux ont une ouverture vers le bas, qui correspond à la pénétration du péché. Mais alors que le ret est fermé sur le côté, ne laissant aucune échappatoire, aucun recours face à la faute, le hey possède une petite ouverture sur le côté qui lui permettra d'échapper au mal et de faire teshuvah. Une dernière interprétation symbolique de la matza proposée par le frère Jean-Philippe Rével de la paroisse Saint-Jean de Malte à Aix-en-Provence m'a paru lumineuse et mérite d'être citée. Le levain, à l'origine au moins, c'est un peu de pain fermenté, pris sur la ration de la veille, que l'on mêle à une nouvelle pâte pour la faire lever. C'est la manière fondamentale d'utiliser le levain. C'est dire que le levain, c'est du pain ancien qui est mêlé à la pâte nouvelle pour lui donner cette propriété de pouvoir lever en faisant des petites bulles d'air dégagées par la réaction chimique du ferment sur la pâte nouvelle. Et c'est sur le fait d'utiliser du pain ancien pour le mêler au pain nouveau que porte le précepte. En effet, à la différence du pain qui est fait avec du levain, donc qui tire ses propriétés du pain ancien, le pain azim, le pain sans levain, le pain qui ne lèvera pas, est un pain entièrement neuf. C'est une pâte nouvelle, faite avec une farine qui n'a jamais encore été utilisée. Et c'est le symbole de nouveauté qui est important dans la prescription de manger du pain azim. Si par l'intermédiaire de Moïse, Dieu a demandé à Israël, à l'occasion de la fête de Pâques, de manger du pain sans levain, c'est en signe de renouvellement absolu, de nouveauté, sans aucune compromission avec la situation antérieure, avec la situation passée. Ainsi, le sacrifice pascal et la délivrance d'Égypte qui s'ensuit vont aboutir à la renaissance du peuple de Dieu. Le peuple d'Israël qui s'était trouvé en exil, puis de là en servitude, Dieu va le ressusciter, le restaurer, le refaire à neuf. Et ce sera l'épreuve du désert. Si le peuple va pendant 40 ans traverser le désert, c'est pour être dépouillé de tout ce qu'il attachait à son passé, en particulier à son péché, à son éloignement de Dieu. Et c'est en signe de ce renouvellement radical qu'on lui demande de manger symboliquement du pain sans levain. C'est un petit peu comme si nous devions écrire une nouvelle Torah, un nouveau testament, sans tenir compte de l'ancien, ou bien fonder une nouvelle famille sans tenir compte de la vie de nos parents. On peut considérer que pour créer un couple solide, il est bon de garder une certaine distance, une certaine indépendance vis-à-vis des parents, au moins les premiers temps. C'est l'œuf de Pâques. Ce qui ne nous empêchera pas par la suite de renouer de nouveaux contacts. Et de même, il est sain que les chrétiens aient renoué des contacts avec les juifs et l'Ancien Testament, qui est finalement assez proche des textes de l'Évangile, si on regarde bien. Mais cela a pris 2000 ans, là où pour nous ça durait 8 jours. Et c'est certainement pour cette raison que nous devons manger de la matza pendant 8 jours et qu'après nous pouvons remanger du hametz, donc de l'ancien. La clôture de la fête est souvent célébrée, notamment chez les Marocains, par un repas festif comportant des pâtisseries variées qu'on appelle mimouna, qui a la même racine que emouna, la confiance. C'est un peu sans doute pour rappeler que nous reprenons contact avec nos anciens, avec nos fondements, avec notre Torah en qui nous avons toute confiance après cette brève phase d'émancipation. Une chose est certaine, c'est que si nous sommes en particulier dans le cadre de notre profession face à une situation de servitude abusive, même si on devait nous proposer le pactole, il nous faut refuser en disant « je ne mange pas de ce pain-là ». La Torah est donc bien vivante et nous en sommes le reflet car Dieu a créé l'homme à son image. On dit donc « tselmo ». Quand Adam conçut Seth, il dit qu'il avait été enfanté un être à son image, tselmo, et à sa ressemblance d'Emout. Ce qui ne fut pas d'ailleurs le cas pour Cain et Abel. On retrouve dans la racine tselem le radical tsel, qui signifie abri ou ombre. Ce radical se retrouve en français dans le mot « essel ». Il a été traduit par « etzel ».« Etzel » est devenu « essel ». Et dans le mot hébreu « etzel » donc, qui veut dire « à côté de ». Quand Dieu a construit la femme à côté, enfin à partir de la côte qu'il a pris à l'homme, on parle de « tzela ». Vous ne trouvez pas que c'est une belle réussite ? Parce qu'il réussit à se dire en hébreu « tselacha ». Le deuxième terme qui exprime la ressemblance est le mot « demout ». Rav Eli Lemel qui a fait récemment et malheureusement la une de l'actualité, était intervenu dans la série « À l'origine » de Steve Suissa le 18 mai dernier sur la 2, dans une émission passionnante dont le titre était « Être soi dans le judaïsme ». Il pose la question de ce qui singularise l'homme, l'être humain, par rapport à l'animal. Et il a défini par deux choses. Sa capacité à se questionner, à se remettre en question. Et deuxièmement, celle de se transformer, de s'améliorer, à contrôler nos réactions instinctives, comme la rancœur ou la colère par exemple. Il a mis en parallèle le mot Adam. Alors, je ne sais pas si j'ai soupé. Non, il est toujours dans la même diapositive. Donc, il a mis en parallèle le mot Adam, humain, homme ou femme d'ailleurs, qui s'ancre dans la terre à Adama. On a Adam, Adama, c'est l'homme qui vient de la terre. Et dans sa similitude avec Dieu, Adamé, qui veut dire ressembler à Dieu, donc. Avec le mot Ma. Qui veut dire pourquoi. Hein, si vous voyez, c'est les lettres, on voit, donc j'ai détaillé Aleph 1, Dalet 4, même 40, et le quoi, c'est même 40 et Hey 5. Donc 45 égale 45. C'est-à-dire que l'homme est un pourquoi. On retrouve le radical dim dam dom dans le mot dima, les larmes. Elle est connue il y a 50 ans, une émission qui s'appelait Dim Dam Dom. Et bon, je l'ai pris pour bien fixer les choses. Alors, du coup, il faut que je redémarre. C'est chaque fois qu'il y a une musique qui ne passe pas. Oui, alors donc oui, j'en étais à mon crocodile, qui en effet que à noter que même si on parle de larmes de crocodile, les animaux ne pleurent pas. C'est une spécificité humaine. Le mot tamam veut dire silence. Il contient ce même radical décliné sous la forme tam, cette fois-ci. Donc, tout à l'heure c'était dim pour les larmes, là c'est tamam. J'ai eu l'occasion de voir la semaine dernière, dans le cadre du Cinespi, qui est présenté par le Père Tournade et Vanessa Sanson, des extraits du dessin animé qui a reçu le César du meilleur film d'animation en 2025 et dont le titre était La plus précieuse des marchandises. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille vraiment de voir, c'est sublime. Ce conte raconte, à sa manière, aux enfants des années 2000, la déportation des Juifs et le recueil d'une petite fille parachutée par son père d'un des trains de la mort qui se dirigeait vers Auschwitz. Je voudrais vous faire part des derniers mots exprimés par l'auteur du film, suivis des commentaires que ce film a inspiré à Noa, qui est une fille qui anime le groupe interreligieux auquel je participe. Alors donc, tout d'abord, le commentaire de l'auteur du film. Il paraît que cette histoire est un conte, et que rien de tout ça n'est arrivé, ni train, ni camp, ni les familles dispersées en fumée, ni le sang, ni le feu, ni les larmes, ni la guerre, ni les survivants, ni la douleur des pères, ni des mères qui cherchaient leurs enfants disparus, que rien n'est vrai, mais on dit tant de choses. La seule chose vraiment vraie, c'est qu'une petite fille qui n'a jamais existé a été un jour jetée d'un train de marchandises imaginaire et qu'une pauvre bûcheronne qui n'existait pas non plus l'a ramassée, nourrie, chérie, aimée plus que tout, plus que sa vie même. C'est la seule chose qui mérite d'exister dans des histoires comme la vraie vie. L'amour offert aux enfants, aux siens, comme à ceux des autres, qui fait que malgré tout ce qui existe et qui n'existe pas, la vie continue. Le reste est silence. Et donc, les commentaires de Hanoa, quand j'ai entendu ces derniers mots de ce film, ma réaction a été, le narrateur paraît reprendre la thèse des négationnistes. Il ne répond pas frontalement. Il donne une représentation de la déportation et de l'extermination des Juifs par le conte et le dessin animé. On reste avec un besoin impérieux de faire silence, mais un silence de deuil. Et j'ai eu envie de répondre qu'il est indispensable de laisser de la place pour en parler, pour le témoignage des survivants, afin de se souvenir pour l'avenir. Enfin, je ne perds pas de vue qu'une vie a été sauvée, même au prix d'autres vies. On a souvent tendance à rejeter Dieu en lui reprochant d'être resté silencieux pendant la Shoah. Mais il a été aussi silencieux, puisque son nom n'a pas été cité, dans l'histoire d'Esther que nous lisons chaque année à Pourim. Et ce, grâce au silence d'Esther, qui n'a pas révélé son identité juive au roi Assuérus, ça a permis de sauver toute la population juive. Même pendant la Shoah, les justes des nations ont su protéger les familles juives de la déportation avec discrétion, sans faire de bruit. Donc le silence, c'est aussi quelque chose d'humain, très humain. La minute de silence que nous observons après le départ d'un des nôtres témoigne de notre humilité et de notre humanité vis-à-vis de celui qui est parti, parfois de manière violente et déchirante. Alors comme ça, à chaque fois ça fait bugger, je vais essayer de sortir la musique à part, parce que sinon... Pour démarrer. C'est une chanson qui avait été écrite par Michel Berger et chantée là, à la fois par Michel Berger et Daniel Balavoine.
Thank you.
Alors donc, pour terminer sur cette minute de silence, la minute de silence que nous observons donc après Aldebaran et Mob, ce mot minute, nous indique également que le silence ne doit pas durer et que la vie doit reprendre le dessus. Nous en avons l'exemple dans l'histoire de Naomi, qui avait perdu son mari et ses deux fils et qui renaît au travers du soutien de sa belle ville Ruth. Hein, il ne faut pas rester sur une souffrance qui n'arrive pas à s'exprimer. Je ne sais pas ce qui se passe. Quand quelqu'un tue Abel, Dieu dit « Qu'as-tu fait ?» Le sang... quand Caïn tue Abel, Dieu dit, qu'as-tu fait? Le cri du sang de ton frère s'élève jusqu'à moi, de la terre. Eh bien, tu es maudit à cause de cette terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Lorsque tu cultiveras la terre, elle cessera de faire part de sa fécondité. Tu seras errant et fugitif par le monde. Dieu, plus tard, quand Dieu bénit Noé, il interdit à l'homme de manger des animaux en vie, car leur sang circule en eux. Et il dit, celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car l'homme a été fait à l'image de Dieu. L'association des deux lettres d'Alet et Mem, du mot d'âme, qui veut dire le sang, signifie connaître, puisque vous savez que d'Alet c'est la lettre de la connaissance, et Mem c'est l'origine, donc c'est connaître l'origine. Et quand on fait une prise de sang, on peut retrouver une filiation par le groupe sanguin et puis maintenant par l'étude de l'ADN. Enfin, on retrouve le radical type d'abdom dans le mot adom, qui veut dire rouge, comme la couleur du sang. Vous connaissez tous le Magen David Adom, qui correspond à la croix rouge en Israël. C'est une organisation non étatique qui recueille du sang et des fonds pour accueillir du matériel et des moyens de transport, ambulances blindées, hélicoptères notamment, pour soigner au plus vite les blessés graves juifs ou non-juifs et non-juifs, grâce à ces 38 000 secouristes bénévoles qui ont été formés par l'association et grâce aux généreux donateurs du monde entier. Ils ont joué un rôle très important à la suite des attentats du 7 octobre 2023 en coordination avec les centres hospitaliers. Du mot « Adom » dérive le mot « Odem » qui veut dire « rubis » et le mot « Admoni » qui veut dire « rond ». Est-ce que vous connaissez un personnage dans la Bible qui avait les cheveux ronds? Eh bien oui, bien sûr, il y a Ésaü, le frère jumeau de Jacob, dont les descendants seront le peuple édomite. Hein, on retrouve Dom. Édom. Ésaü et Jacob sont nés à la suite d'une grossesse gémellaire, alors que Rebecca était stérile. C'est une situation qu'on observe couramment de nos jours, suite aux procréations médicalement assistées, où la stimulation ovarienne favorise les grossesses multiples. Mais dans son cas, ça a été une procréation assistée par Dieu, suite aux prières insistantes de Isaac. Cette stérilité, comme celle de Sarah et Rachel, était certainement favorisée par un certain degré de consanguinité, puisque le grand-père de Rebecca, Nahor, était aussi le nom du village où il habitait, était le frère d'Abraham. Ésaü et Jacob, bien que frères jumeaux, ne se ressemblaient pas beaucoup. Et dès leur conception, une rivalité s'est installée entre les deux frères. L'aîné était rond, velu, bien fait, on dit ossé comme Ésaü, et ce sera un habile chasseur. Le second est sorti en s'aidant du talon de l'aîné. Alors, un talon en hébreu, ça se dit Ekev, et ce qui a donné Yaakov et puis Jacques par la suite. Alors, est-ce qu'il était trop faible physiquement pour pouvoir s'extraire seul ou voulait-il simplement guider spirituellement les pas de son frère aîné. Dieu, comme Jacob, nous propose-t-il de guider nos pas spirituellement ? Alors, en nous demandant de limiter au travers de la prescription du Shabbat, hein, puisque finalement ce commandement est basé sur l'imitation de Dieu, tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour, car Dieu a créé le ciel et la terre et s'est reposé le 7e jour. Donc nous devons aussi limiter dans le premier commandement, à savoir qu'il faut laisser la liberté à notre prochain. Puisqu'il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Et c'est sans doute pour ça que cela signifie que Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire qu'on doit faire comme lui, respecter la liberté de notre prochain. En conclusion, l'image renvoie à la mort, là où la vidéo renvoie à la vie. Quel meilleur moment d'en parler que cette semaine où Annecy est comme chaque année, à la même époque, la capitale du marché international du film d'animation appelé MIFA. Le mouvement est symbolisé dans notre corps par la circulation sanguine qui fait communiquer, qui irrigue et qui protège. C'est certainement un des fondements les plus importants du judaïsme et du christianisme, en tout cas dans leur pôle libéral. Mais même la mort n'est qu'une étape vers un renouveau symbolisé par les fêtes pascuales dans nos deux religions. Nous lisons d'ailleurs dans la Haftara de Pessah un passage d'Ézéchiel à propos de la vallée des ossements desséchés dans Ézéchiel 34, 5, 6. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ses ossements. Voici que je vais vous faire passer en vous un souffle et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître autour de vous de la chair, je vous envelopperai d'une peau, puis je vous mettrai en vous l'esprit, et vous vivrez, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Ce message d'espérance que dit saint Paul dans son épître aux Romains, spes non confundit, l'espérance ne déçoit pas, s'adresse à tous, notamment au pape François, qui nous a quittés un lundi de Pâques dernier, au lendemain de l'anniversaire de la résurrection du Christ. Je vous remercie de votre attention.
Chaque lettre hébraïque semble apporter aussi un enseignement spirituel. Comment expliques-tu cette richesse de ces 22 lettres hébraïques ?
Là, c'est le miracle de Dieu qui a fait un alphabet qui est extraordinaire, qu'on trouve d'ailleurs dans aucune langue aussi perfectionnée. Et c'est un vrai, un vrai plaisir d'étudier tout ça, parce qu'on se rend compte que tout est relié, tout est très très bien fait. Enfin, on peut dire que Dieu a créé l'écriture, et je trouve que c'est magnifique de pouvoir rentrer dans cette recherche.
Oui, mais alors ça rebondit, puisque Dieu est notre créateur, il nous offre ce langage, le langage hébraïque, qui lui-même est extrêmement créatif.
Oui, ben c'est ça.
Il y a une espèce de...
C'est pour ça qu'il n'y a pas une image, mais bien quelque chose d'évolutif. On donne un matériel et on en fait, on l'ouvre, on le modèle et on en fait quelque chose d'extraordinaire. C'est ça la richesse de la Torah, c'est qu'on n'a jamais fini de découvrir de nouvelles choses. C'est d'une richesse exceptionnelle.
Donc on reste fidèle au processus de création, on reste fidèle au Créateur en continuant de créer.
Exactement. Et c'est pour ça que je trouve dommage de dire, bon, c'est un texte, on ne doit pas ajouter ni retrancher de mots, mais peut-être pas de retrancher, mais on peut les ouvrir, les regarder sous toutes les facettes et on découvre des tas de choses qui sont très riches.
Mais est-ce qu'on peut aussi parfois se tromper?
Ah ben peut-être, hein, c'est pas interdit. Bon, on se trompe, hein, mais je pense qu'on peut. L'essentiel c'est de faire un effort pour le dévoiler, le découvrir. Hein.
Alors est-ce que tu dirais que l'hébreu serait carrément une langue sacrée?
Pour moi, oui. Sans aucun doute. Ceci dit, en français, il y a des choses aussi très belles. Hein. Je faisais souvent la comparaison entre l'hébreu et le français, par exemple, pour un radical qui correspond à PR. Donc, PR, en hébreu, c'est la modification. Et on l'observe aussi en français parce que le père, le partage, le fruit, tout ça, ce sont des termes qui sont en français, qui ont cette même racine, et on a l'impression que ça a été copié sur l'hébreu tellement. Et si à chaque fois que vous voyez un mot en français qui contient un PR, vous êtes sûr que c'est une division, enfin une multiplication par la division, exactement.
Donc il y a à la fois. Un paradoxe, quoi, multiplication, division, mais qui est un processus de créativité dans ce jeu de la multiplication et de la division. Voilà. Ouais.
Mais autant ça se voit sur certaines racines françaises, mais pas toutes, alors qu'en hébreu, c'est vraiment presque, à part les mots modernes, hein, c'est sûr que c'est réfrigérateur ou ordinateur, ça sera peut-être plus compliqué, mais dans le texte de la Torah, tous les termes qui ont été utilisés, toutes les racines qui ont été utilisées dans la Torah, elles sont d'une ouverture extraordinaire. Et ça vaut vraiment le coup de plonger dedans et de les comparer en voyant tous les messages qui sont dans toutes ces racines.
Est-ce que ça développe l'imagination?
Complètement. Mais justement, c'est pour ça que j'avais choisi la chanson de John Lennon, Imagine, parce qu'en fait, on transforme l'image en quelque chose de nouveau, quelque chose qui est mobile, qui est évolutif comme un film. C'est un peu le sens de mon intervention de ce soir, c'est de faire comprendre que je pense que l'image, il faut qu'elle bouge.
Bon, on peut le faire aussi un peu en français, image, imaginer.
Voilà, exactement.
On l'a un peu.
C'est ça.
Oui.
C'est
ça.
Vous avez des questions?
Ce que j'ai retenu, c'est le. Le tas de pierres, les 12 pierres au bord du Jourdain, qui symbolisent les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Le chiffre 12 revient souvent dans la Bible.
Un autre paradoxe. Tu avais démarré avec les limites de la loi. Et un des paradoxes, c'est en comprenant les limites, on va vers notre liberté.
Oui, bien sûr. C'est ça qu'il faut enseigner aux enfants.
Ouais. Parce
que le problème, c'est qu'actuellement, les jeunes n'ont plus du tout de limites. Et donc, ils arrivent à faire des choses comme tuer des enseignants, des surveillants. Enfin, c'est parce qu'ils on leur a jamais donné de limites. Et on devient des enfants rois qui ont l'air de faire tout ce qu'on veut. Et au bout du compte, ils deviennent des animaux. Et encore, c'est gentil, parce que les animaux, ils sont des fois plus respectueux que certains enfants.
Oui, parce que depuis quelques années, on croit qu'en effaçant les limites, on va vers la liberté.
Et non, ça c'est une erreur.
Donc c'est une erreur mais colossale, quoi.
Alors j'avais donné, je donne souvent l'exemple d'un pédiatre qui s'appelle Olivier Revol, qui disait que la mayonnaise, si on veut qu'elle monte, il faut un bol et non pas une assiette. Pour les enfants, c'est pareil.
Même chez les adultes, particulièrement les chefs d'État qui prônent la course à l'armement, ça. Il n'y a pas de limite.
Ah oui, après, bon, c'est l'enfant, on est des adultes, s'ils restent dans le même moule, ben, effectivement, ça veut dire des tyrans et des gens qui font n'importe quoi.
Jusqu'où ça va aller?
Oui.
Ce qui veut dire que dans l'absence de limites, on va glisser vers la violence.
Ben, bien sûr.
Il y a un rapport étroit entre
bien entendu
nos limites et explosion de la violence.
Non, je ne sais pas si vous voulez.
Moi, je voudrais revenir tout à fait à autre chose, parce que je comprends que le Seigneur ne veut pas qu'on fasse d'image humaine ou divine. Mais dans ce que j'ai vu, quand il y a 12 pierres posées, pour moi, ça n'est pas... C'est une construction, un monument, comme une pierre levée pour marquer un souvenir. Ça ne me semble pas être du même ordre, parce que ça ne représente ni Dieu, ni un humain, ni rien. C'est simplement une marque souvenir.
Oui, mais il est bien dit, tu ne feras aucune statue ni aucune image de tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est dans la terre, de ce qui est en dessous de la terre. Donc, ce n'est pas que Dieu, ça concerne tout.
Alors, je comprenais que c'était Dieu ou les humains. Le visage humain, de ne pas faire de sculpture humaine, de ne pas représenter Dieu ni les prophètes. Je comprends très bien, parce que ça, c'est presque une offense à Dieu, quoi. C'est nous qui sommes à la ressemblance de Dieu, mais on ne doit pas faire de sculpture, de représentation ni de Dieu ni des humains. Mais de mettre une pierre levée à un endroit où il s'est passé quelque chose, pour moi, ce n'est pas une sculpture et il n'y a pas de représentation.
Alors, c'est vrai que ce n'est pas une sculpture parce qu'il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas
de travail.
Il n'y a pas de travail humain.
Il n'y a pas de travail sur cet élément, effectivement.
Voilà.
Après, il y a les monuments. Les monuments, c'est. Alors, je pense que quand on parle de monument, c'est quand un monument immense qui veut s'imposer à soi.
Tous les monuments aux morts qu'on voit partout, ce sont bien des humains qui sont représentés, un maréchal, un soldat, ok. Mais, comment dire, quand en montagne, on met quelques pierres pour marquer le chemin, ça s'appelle un cairn, pour moi, ça n'offense pas Dieu. C'est simplement, vous êtes sur le bon chemin, c'est comme mettre une flèche, et on fait ça tout le temps. Mais c'est pas une représentation de qui que ce soit, c'est simplement une marque de passage. Voilà, c'est tout, hein. C'était ma réaction en écoutant cette conférence qui m'a passionnée, mais là je me suis dit, là je ne comprends plus.
On ne va quand même pas condamner Michel-Ange, Léonard de Vinci, parce qu'ils ont fait des sculptures.
Ah, bien sûr.
Des merveilles.
Bien sûr. Non, mais je pense que il faut voir les choses au deuxième degré. C'est-à-dire, pour moi, ce qui est pas, c'est pas le, le, l'image ou la sculpture qui est interdite, c'est ce côté figé. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est de dire c'est comme ça et puis c'est pas autrement. C'est pour ça que j'ai appelé ainsi soit-il, c'est-à-dire qu'il faut que l'ainsi soit-il puisse devenir un jour un ainsi sera-t-il.
Ainsi soit-il, amen, c'est-à-dire aussi cela est vrai.
Oui, mais il ne faut pas que ce soit un vrai qui soit figé. Il faut que qu'on puisse toujours discuter, de, même quelque chose qui paraît évident, qui paraît ne pas pouvoir être discutable, ben il faut, faut que la discussion soit toujours permise.
Je pense que l'exercice est difficile parce qu'on aime bien tel et tel peintre. On peut aimer ses peintures comme pour les musiciens, mais c'est d'éviter d'idolâtrer les artistes, les créateurs humains. Ils ont une petite création, ils ont été inspirés un peu. J'ai pas envie de condamner les artistes, que ce soit l'image ou la musique, mais évitons d'en faire des idoles. Ce ne sont que des messagers. On peut apprécier tel tableau, telle chorégraphie, telle mélodie, mais ce ne sont que de simples passeurs et le créateur est toujours au-dessus de tous les artistes. Est-ce que vous en pensez? Parce qu'un monde sans artiste, ce sera un monde un peu triste aussi.
Moi, je crois que ce qui est interdit, c'est de rester dans quelque chose de statique. Parce que justement, le Seigneur, il est dans la vie, le dynamisme permanent. Il nous a fait à son image dans le dynamisme, la création, c'est très bien. Ce qui est embêtant, c'est de dire, stop, mettons, j'ai compris une fois pour toutes, la Bible dit ça, la Torah dit ça, j'arrête là. Alors c'est ça, je pense, qu'il ne faut pas. Parce que, c'est mortifère d'arrêter de penser, de vivre et d'évoluer. Moi, c'est comme ça que je comprends ce que le Seigneur nous a dit. Il nous a donné une loi, des textes, on n'y change rien, on ne va pas rajouter ni enlever, d'accord. D'ailleurs, Jésus a dit la même chose, hein, qu'il ne fallait pas changer un iota. Mais on a le droit de vivre et de penser, même c'est recommandé de vivre justement et d'aller plus loin. C'est pas statifié, c'est pas figé une fois pour toutes. Et je pense que dans n'importe quelle religion, n'importe quelle liturgie, c'est pas on a toujours fait comme ça, on continue, on fait pareil, on arrête là. Non, on ne change pas l'esprit, on change pas une lettre de la loi, mais on vit et on peut bouger quelque chose parce qu'on est créatif, on a à être créatif comme le Seigneur. Je ne sais pas si je me fais comprendre, on ne change pas un mot de la loi, mais il faut que la liturgie et tout vive.
Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut avoir l'amour de la loi, de la vie et non de la loi.
Voilà.
Qui marche.
Oui.
Je viens de faire une lecture d'un petit ouvrage qui s'appelle, je ne sais plus exactement le titre, mais qui porte sur la polémique qui a eu lieu en 52 par là, pour le Christ de Germaine Richier, qui est dans l'église du plateau d'Assy. Donc c'est un Christ totalement un peu déchiffré. Qui n'est pas vraiment représenté, c'est une croix, mais derrière la Germaine Richier, elle avait en tête aussi tout le drame qui venait de se vivre dans la Shoah, tout ça, et donc ça a fait un scandale épouvantable, parce qu'elle avait fait bouger un petit peu l'image du Christ, des Christ un peu Saint-Sulpice qu'il y avait dans toutes les églises, puis là elle a apporté son regard sur ce Christ qui était vraiment souffrant, mais voilà. Donc, ça a fait bouger, parce ce qui a été intéressant, c'est qu'il y a eu une polémique qui est montée jusqu'au Vatican, enfin bon, tout le monde s'est indigné de ce Christ, sauf que les gens du plateau d'Assis, qui étaient essentiellement des malades, il y avait plus de 1000 dans les sanatoriums là-bas, eux s'y sont bien retrouvés dans ce Christ qui était là. Et voilà, donc alors, il se trouve que l'évêque d'Annecy, devant la polémique, puis un peu, je crois, le Vatican avait un peu insisté, il a fait enlever ce Christ et remiser dans une chapelle un peu discrète. Il a fallu attendre 30 ans pour le remettre là où il était prévu, sur l'autel. Enfin, voilà. Et donc, c'est intéressant par rapport à votre propos aussi, c'est que les images, parfois, elles font évoluer les images. C'est ce que je voulais dire. Ça a apporté quelque chose sur comment on voit le Christ, qui est vraiment
apporté encore une petite précision par rapport à cette notion d'image qu'on dit entre l'image Témouna et la foi Émouna. Et je crois que c'est souvent utilisé chez les antisémites en faisant des caricatures des juifs sous forme d'image, et finalement les gens finissent par croire que les juifs sont comme ça. C'est-à-dire que le danger de l'image, c'est qu'elle peut, ça peut transformer la croyance et la vision des personnages, que ce soit nous ou autres, et je trouve que c'est ça le gros danger.
Quelque chose qui peut me gêner dans le mot image, alors peut-être que tu aurais une réponse. Dans image, on entend mage. Un mage. C'est du hasard ou c'est incongru ?
Je ne sais pas, on y réfléchit, peut-être qu'on pourrait trouver des choses inattendues, mais je ne sais pas, il faudrait travailler sur ce. Parce que c'est vrai que souvent le I, et IM en particulier, et souvent l'inverse du mot en par exemple immanent ou manant. Il y a des adjectifs qui sont avec le im derrière, l'inverse du
mortel, immortel. Prévu, imprévu.
Voilà, imprévu et prévu, par exemple. Voilà.
Mortel, immortel.
Alors, peut-être dans l'image, il y a quelque chose, je ne sais pas.
Ima, c'est maman aussi en hébreu.
Comment ?
Ima, c'est maman.
Oui, oui, on va un peu loin.
Bien. Puis on entend âge aussi dans image.
Oui, oui. Ouais, si on se dit on pouvait trouver des choses, hein, on ne sait jamais.
Parce que un mot, dans un mot, on entend des sons. Et ces sons, on peut retrouver un sens qui échappe.
Oui,
l'orthographe.
Oui. De devoir écrire, de permettre justement de donner des idées. C'est pour ça que c'est bien de lire et de pas se contenter d'entendre, mais de vraiment regarder.
Bon, sinon, il y a quand même une très belle phrase : l'amour n'efface pas la loi. C'est beau ça. On a presque tout dit. On pourrait inverser, la loi n'empêche pas l'amour.
C'est bien.
Et on est dans un monde moderne, on a du mal à associer l'amour avec la loi.
Ouais.
La loi de l'amour.
Parce que l'amour n'a pas de loi. Parce que l'amour n'a pas de loi.
Ah, c'est vrai aussi.
Nous les chrétiens, on vient de vivre.
Alors attendez.
Nous les chrétiens, on vient de vivre la Pentecôte. Est-ce que dans les fêtes juives, est-ce qu'il y a une fête de l'esprit, le roi, ça se dit en hébreu. Est-ce qu'il y a une fête de l'esprit?
Je pense que la Pentecôte juive est un petit peu la fête d'esprit. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé que toutes les fêtes chrétiennes et juives sont très calquées l'une sur l'autre. On en a parlé pour Pessah là, tout à l'heure. Mais c'est vrai aussi pour Shavuot, c'est pour les Pentecôtes, c'est vrai pour Noël et Hanouka, enfin, pour Yom Kippour. Enfin, il y a vraiment l'impression d'être des jumeaux, comme Ésaü.
Ça sera le thème de l'année prochaine.
Exactement. Exactement. Enfin,
l'année prochaine.
Et alors, ce qui explique pourquoi les jumeaux se sont fâchés. Le danger des jumeaux, c'est qu'à un moment donné, il peut y avoir des discordes.
Ah oui, oui, oui.
Mais après, la réconciliation. Mais la proximité est quelque chose de dangereux.
Absolument. Hein?
Et nos 2000 ans d'histoire très difficile, on a mal vécu notre proximité pendant 2000 ans.
Exactement.
Comme si on allait perdre chacun nos identités. Enfin, surtout pour les chrétiens.
Ouais,
ouais. Et je pense... Enfin, c'est certainement la fonction des amitiés judéo-chrétiennes, c'est que accepter en tant que chrétien notre proximité avec le judaïsme, ça va vraiment nous apaiser et devenir riche, ça va nous enrichir quelque part spirituellement.
Ce que je rappelais tout à l'heure pour l'histoire des 8 jours et des 2000 ans.
Ouais. Je pense qu'il y a un enjeu, on ne le réalise pas, mais extrêmement important pour nous chrétiens. On va vivre un nouveau christianisme en reconnaissant nos frères aînés. Et là, on retombe dans l'histoire des jumeaux, quoi. Ou Abel et Caïn, ça a été un peu ça aussi entre nous, Abel et Caïn. Non, je ne sais pas.
Moi, ça me fait penser aux gens qui partent en vacances. Et quand ils sont revenus des vacances, ils sont très contents de retrouver leur chez-soi.
Tu veux dire qu'on retrouve la maison mère, un peu nous les chrétiens.
C'est ça. On s'habitue à vivre comme ça, une petite semaine ou 15 jours dans un petit bungalow, dans une petite tente de... Enfin, un homme chez soi, et bon, et quand on rentre chez soi, ben on est content, tiens, on a le confort. On trouve son appartement de départ, sa maison de départ.
Mais alors, est-ce que ça peut aussi déranger le frère aîné, ce retour? Alors, pour nous, non. Tous ceux qui sont présents, qui participent aux amitiés judéo-chrétiennes, c'est pas le cas entre juifs et chrétiens, mais pour les autres juifs qui ne s'approchent pas, qui ne s'intéressent pas aux amitiés judéo-chrétiennes, est-ce que ça peut aussi les déranger de voir le petit frère qui revient à la maison?
On doit être, je ne sais pas, si une femme dans une famille, un enfant qui est parti, qui revient, est-ce que les parents vont être déçus de revoir venir leur fils? Je ne sais pas.
Ouais. Bon, en tous les cas, on a ouvert un air nouveau. Je pense que là, il y a un tournant historique pour nous, dans ces retrouvailles entre chrétiens et juifs.
C'est sûr, c'est quelque chose de très important, et je pense qu'heureusement que c'est arrivé.
Ça a pris du temps.
Oui.
2000 ans.
On espère que... Que Léon XIV va continuer cette œuvre qui a été commencée déjà plus de 50 ans et qu'on va sur le bon chemin.
On va rester vigilant, on reste toujours fragile. Une dernière question.